Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans l'univers des aliments fermentés, ces aliments modifiés par la présence de microbes. On n'en a pas toujours conscience, mais la sauce soja, la choucroute, le fromage, le pain, le vin, le yaourt sont des aliments fermentés. La fermentation est un procédé universel. Elle concerne plus de 5000 produits à travers le monde. Elle a des vertus pour la santé, mais c'est également un exhausteur de goût. Et cette pratique ne date pas d'hier. L'homme y a recours depuis la préhistoire. Alors comment se déroule exactement ce procédé qui permet de prolonger la durée de vie des aliments? Quel est son intérêt en termes nutritionnels et de santé? Pour y voir plus clair, je reçois Marie-Claire Frédéric. Marie-Claire est journaliste culinaire et historienne de l'alimentation. Elle est aussi une vraie passionnée de la fermentation. Autrice d'une quinzaine de livres sur ce sujet, mêlant recettes et perspectives historiques, Marie-Claire a ouvert un restaurant en 2018, Suri, qui propose des recettes à base d'aliments fermentés. Dans une volonté de transmission, Marie-Claire a créé deux blogs, Ni cru, ni cuit, et Du miel et du sel, dans lesquels elle démystifie l'usage d'aliments fermentés et partage ses recettes. Dans la continuité, elle a décidé d'ouvrir une école de fermentation, des formations destinées aux particuliers et aux professionnels. De quoi nous réconcilier avec les micro-organismes. Bonjour Marie-Claire.
Bonjour.
Est-ce que tu peux déjà te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas?
Alors, donc, je m'appelle Marie-Claire, je suis spécialiste de la fermentation. Donc, comme vous l'avez dit aussi, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet et j'avais ouvert un restaurant à Paris qui était consacré à la fermentation. Malheureusement, le restaurant a fermé suite à la crise Covid, il n'a pas survécu à ça. Mais nous avions énormément de demandes pour des formations, des gens qui veulent apprendre à faire fermenter les aliments, à la fois des professionnels et des particuliers. Donc j'ai ouvert un institut de formation, une école, l'école de fermentation. Et voilà, donc j'essaye de semer les ferments.
Elle est où cette école?
Alors, c'est une école en fait nomade. Nous donnons des cours à plusieurs endroits. Nous sommes sur Paris, nous sommes au Lila pour l'instant. Mais je peux aussi aller en province. J'ai des cours dans les Deux-Sèvres, j'ai des cours. Et si on nous demande, si quelqu'un, par exemple une association ou un professionnel, un restaurateur, un maraîcher ou n'importe quelle institution quoi, voudrait des cours de fermentation, eh bien nous nous déplaçons, on emmène notre matériel et on va faire les cours sur place.
Génial. Alors, je peux me permettre de tutoyer?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la fermentation?
Alors moi, c'est d'abord le côté culturel qui m'a intéressée. C'est en étudiant l'histoire et la géographie de l'alimentation, je me suis rendu compte que ces aliments-là, ils avaient une place à part. Alors déjà, ils sont présents absolument partout dans le monde. Il n'y a pas une seule culture gastronomique dans le monde qui n'a pas d'aliments fermentés. Donc déjà, ça m'avait interpellée. Et en plus, le fait que c'est très ancien et que partout, c'est considéré comme l'aristocratie. C'est ce qu'on a de meilleur dans chaque culture gastronomique. Par exemple, nous, en France, qu'est-ce qu'on met au pinacle de notre gastronomie? C'est nos grands vins, les fromages, la baguette de pain. Vous voyez, c'est des aliments fermentés. Vous allez en Allemagne, il y a la bière, le pain noir aussi, les harengs de la Baltique, la charcuterie.
Tout les ça. Harengs de la Baltique sont, de, sont un aliment fermenté.
Oui, les harengs traités en roll mops ou c'est aussi du fermenté.
Ok.
Donc ça, c'est emblématique. Vous allez au Japon, la soupe miso, la sauce soja, c'est des produits emblématiques de la gastronomie japonaise. C'est fermenté. En Chine, n'en parlons pas. Enfin, il y a énormément de produits. Partout dans le monde, voilà, c'est ça. Et donc, je me suis demandé pourquoi, pourquoi ces aliments-là sont vraiment particuliers.
Alors pourquoi ?
Alors, il y a énormément de réponses. Bien, c'est parce que déjà, il y a le côté vivant. Ce sont des aliments vivants, des aliments qui évoluent, qui sont vivants. C'est des aliments en plus qui sont vraiment emblématique d'un terroir, c'est un des aliments qui représente le terroir. Donc, c'est des aliments qu'on a mangés quand on est petit, quand on est enfant, et dont on se rappelle avec nostalgie plus tard. Et c'est en général des aliments quand les gens sont expatriés. C'est vers ça qu'ils recherchent. Enfin, leur nostalgie se porte sur ces aliments-là. Par exemple, vous allez voir un ami français expatrié à New York. Vous lui demandez qu'est-ce que je pourrais t'apporter qui te ferait plaisir. Il va vous dire un saucisson, une bouteille de vin ou des choses comme ça.
Du fromage.
Voilà, et du fromage. Voilà. C'est ce qu'on trouve pas sur place ailleurs et qu'on a envie d'avoir. Donc c'est ça, voilà, c'est très intéressant.
Tu nous parles d'aliments vivants, alors on va en reparler après, mais à partir du moment où l'aliment est cuit, je pense au pain, est-ce qu'il reste vivant ?
Alors, non, évidemment, le pain, il a été transformé, ensuite on le fait cuire, donc les levures et les bactéries sont mortes. Mais elles ont fait le boulot, si je puis dire. Donc le pain, il a été transformé, à un moment, il a été vivant. D'ailleurs, toutes les personnes qui font du pain sont assez fascinées par la pâte qui lève, donc on sent vraiment que la vie là-dedans, c'est quelque chose d'assez fascinant. De même, si vous faites, imaginons, vous faites une choucroute, vous la faites cuire, ensuite, elle a été cuite, mais les bactéries ont transformé le chou, ont opéré tous les bienfaits sur le chou. Donc, voilà.
Et alors, d'un point de vue nutritionnel, on dit souvent que la fermentation a des vraies vertus en termes de santé. Alors déjà, j'aimerais comprendre ces vertus. Et ensuite, justement, à partir du moment où c'est cuit, que ce soit la choucroute ou le pain, est-ce que ces vertus restent ?
Oui, alors ces vertus restent, oui. Alors, les vertus pour la santé, il y en a énormément. Déjà, ça rend l'aliment plus digeste. Parce qu'en fait, ça opère en quelque sorte une prédigestion de l'aliment. Donc, si on parle des légumes, par exemple, les personnes qui digèrent mal les fibres peuvent parfaitement digérer les légumes fermentés. Ça leur fera aucun mal aux intestins. Si on parle du pain au levain, par exemple, le levain va enlever l'acide phytique de la farine, et ce qui fait que le pain aussi sera, les minéraux du pain seront mieux assimilables par notre corps. Le vin va aussi digérer un petit peu le gluten, ce qui fait que les gens qui ont des intolérances au gluten pourront mieux digérer le pain au levain qu'un autre pain.
Et alors voilà. Là, vous me parlez de pain au levain, ça veut dire que entre de la levure qui reste de la fermentation et du levain, on a plusieurs types de fermentation qui n'ont pas les mêmes atouts.
Exactement. Donc pour la santé, le pain au levain est un peu meilleur que le pain à la levure. Mais ceci dit, on peut faire du très bon pain à la levure à condition de laisser le temps à la fermentation. Parce qu'il y a une différence entre un pain qui a été fait, vous voyez, une baguette plus ou moins industrielle qui a été faite en une heure, ou une baguette artisanale qui peut pousser pendant toute la nuit au frais. Enfin voilà, ça développe des tas de...
Donc l'important, c'est la longueur.
En général, oui, c'est vrai que c'est très, très souvent le cas. Il faut prendre le temps de la fermentation.
D'accord. Ouais. Mais quand même, est-ce qu'il y a une baguette ou un pain à la levure fermenté 48 heures et au levain fermenté 48 heures, il y aura une différence ?
Il y aura une différence parce que la levure, c'est une fermentation alcoolique. Le pain au levain, c'est une fermentation mixte parce que le levain, c'est un ensemble de micro-organismes. Il peut y avoir plus d'une dizaine de variétés différentes de micro-organismes dans un levain. Même peut-être une vingtaine, il y en a vraiment beaucoup. Donc, chaque micro-organisme a ses spécificités. Donc, c'est un ensemble de fermentation mixte. Il y a à la fois de l'alcoolique, de l'acétique un petit peu et de la fermentation lactique. D'ailleurs, on sent quand on fait cuire un pain dans le four, ça peut sentir l'alcool, ça peut sentir le vinaigre à un moment. Et ça sent aussi les levures, le goût des levures.
Bah alors, je me rends compte qu'on n'a pas vraiment défini ce que c'est que la fermentation. Du coup, je comprends qu'il y a plusieurs types de fermentation.
Tout à fait.
Donc, qu'est-ce que la fermentation ?
Alors, la fermentation, pour faire simple, c'est l'art de cuisiner avec des microbes. Alors, ça peut faire un peu peur hein, quand on parle de microbes. Mais en fait, c'est l'art de transformer des aliments par des micro-organismes. Alors, je ne vais pas entrer tôt dans les détails techniques, mais les micro-organismes vont fabriquer des enzymes. Et les enzymes, ça agit comme des petites usines chimiques, si vous voulez. Ça va transformer la matière soit le légume, la farine, les céréales, etc. Et donc, le produit va être chimiquement différent. En fait, c'est les enzymes vont casser les grosses molécules dont les atomes vont se recombiner autrement. Et c'est ça qui fait les transformations chimiques.
D'accord.
Et dans cette transformation, nous trouvons un intérêt pour notre nourriture. Parce que ça permet de conserver les aliments beaucoup plus longtemps. Ça permet de le rendre sanitairement plus intéressant parce que ça va tuer des pathogènes, ça va empêcher que l'aliment se corrompe, ça va fabriquer des vitamines, ça va fabriquer des acides organiques qui sont très intéressants pour notre santé, ça va fabriquer des acides aminés, ça va fabriquer plein de substances et aussi des molécules aromatiques. Par exemple, le jus de raisin, bon, c'est bon, on aime ça, c'est sucré, mais le vin, ça prend une dimension tout à fait différente. Parce qu'entre le jus de raisin et le vin, il y a plus de 400 molécules aromatiques qui sont créées par la fermentation.
Incroyable.
Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Et donc, on a différents types de fermentation.
Il y a différents types de fermentation. On les nomme d'après le produit principal qui est fabriqué durant cette fermentation. Par exemple, la fermentation lactique va produire de l'acide lactique.
Donc le fromage.
C'est celle du fromage. C'est aussi celle de la choucroute et des légumes fermentés. Et c'est aussi celle du saucisson.
Alors, je comprends pas pourquoi on l'appelle lactique.
Alors, c'est un peu un hasard si ça s'appelle lactique. Alors, ça s'appelle lactique parce que ça produit de l'acide lactique qui est présent dans le lait, mais aussi dans plein d'autres aliments.
D'accord.
En fait, c'est un savant suédois dont j'ai oublié le nom, qui a découvert cet acide au XVIIIe siècle et il l'a découvert en étudiant le lait. Mais imaginez s'il avait étudié la choucroute, il l'aurait appelé acide choucroutique, peut-être. Que c'est un acide qui est présent dans énormément d'aliments. Par exemple, dans le miel, il y a aussi de l'acide lactique, vous voyez. Donc, pas uniquement dans le lait.
D'accord. Et donc, on a
la fermentation lactique. On a aussi la fermentation alcoolique qui produit de l'alcool. Alors, c'est celle du pain à la levure et aussi du vin, de la bière, enfin, toutes les boissons alcoolisées qu'on fabrique. Il y a aussi la fermentation acétique qui va produire le vinaigre, l'acide acétique, c'est le vinaigre. Alors après, il y en a d'autres moins connues. Il y a la fermentation propionique qui est celle qui fabrique les trous dans l'emmental.
Ah,
vous voyez,
okay.
Ça produit un gaz qui fait des bulles dans la pâte du fromage et quand ça prend, ça provoque les trous dans l'emmental et ça donne aussi cette saveur particulière qu'a l'emmental. Ça n'a pas la même saveur que le camembert, par exemple.
Oui, bien sûr. Mais là, il y a aussi une fermentation lactique, j'imagine.
Ah, il y a aussi une fermentation lactique, bien sûr.
D'accord.
Oui, parce qu'en plus, ça peut se combiner ensemble. Enfin, il peut y avoir plusieurs fermentations.
Depuis quand existe la fermentation ?
Alors, elle existe depuis toujours, depuis que l'homme existe sur la Terre, il a fait de la fermentation. Les chasseurs-cueilleurs faisaient maturer le gibier, enfin on disait faisander, mais aujourd'hui on dit maturer, ça fait plus chic, mais c'est la même chose. Donc on ne mangeait jamais un gibier qu'on a tué tout frais, parce que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est dur,
okay.
C'est ferme, c'est dur, et puis la viande n'a pas de goût. Tandis que si on le laisse maturer, aujourd'hui on le fait encore, hein, les bons bouchers vont vous faire maturer la viande un certain temps. Ça donne du goût et en plus ça attendrit la viande.
Donc ça veut dire quoi concrètement pour la viande de la fermentation ?
Alors, ce qui se passe quand on tue l'animal, en fait, dès que l'animal est mort, il y a les bactéries de son système digestif qui vont envahir tout le corps. Et c'est ça qui va provoquer cette fermentation, ce faisandage.
Donc en fait, c'est du pourri.
En fait, c'est du pourri, mais l'histoire du pourri ou du fermenté, la différence, en fait, elle est culturelle.
D'accord.
Parce que ce que nous considérons comme fermenté, ça peut être pourri pour quelqu'un d'autre. Par exemple, essayez de faire manger un camembert à un Chinois, il va vous dire c'est pourri, c'est dégoûtant, c'est horrible.
Comme le roquefort.
Comme le roquefort, voilà. Le roquefort, hein, c'est plutôt aux Américains que ça dégoûte. Et puis de même, nous, maintenant, bon, on a un petit peu quand même évolué, mais au début du XXe siècle, les Européens considéraient le nyokmam comme du jus de poisson pourri.
Ah ouais. Hein. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tombe pas malade en mangeant de la viande pourrie ? On dit toujours qu'il faut faire attention avec de la viande.
Alors, parce qu'il y a de la bonne pourriture et de la mauvaise pourriture, en fait. Et c'est tout l'art du fermenteur de diriger sa fermentation du bon côté de la force. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. On va pas du côté obscur qui va apporter la pourriture. Donc, c'est pour ça qu'il y a des techniques. Il y a des savoirs qui se sont transmis depuis des millénaires, même plus que des siècles. Et autrefois, on ignorait la cause de la fermentation. Donc, c'était les dieux, les esprits, tout ce que vous voulez. C'était des choses un peu surnaturelles. Parce que imaginez quelque chose qui se transforme sans qu'on fasse rien. Ça, c'est le temps passe et paf, ça se transforme. Donc, on savait pas. Et donc, il y avait tout un tas de rituels, de superstitions, de croyances, etc. Donc, tout un folklore, en fait, là, à ce sujet. Et c'est ça aussi, ce côté mystérieux, un peu, qui a fait que sont des aliments valorisés dans les cultures.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que fermenter les choses chez soi, quand même, ça va pas être évident? Parce que, enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'ai une expérience pas terrible avec la fermentation, où en effet, on peut passer de la fermentation bonne pour la santé au pourri qui va rendre
malade. Ça peut arriver si on ne respecte pas les règles. C'est pour ça que... Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on connaît les règles, c'est simple. Bon, il suffit de les appliquer et puis ça fonctionne. Mais il faut connaître les règles, justement. Et parfois, il y a des gens qui croient savoir et qui ne savent pas et qui font des erreurs qui peuvent être, au pire, bon, ça peut être vous ratez votre produit, vous le jetez à la poubelle, mais c'est quand même dommage parce que vous gaspillez. Puis encore pire, vous pouvez rendre les gens malades. Là, c'est beaucoup plus grave.
Est-ce que tous les aliments peuvent être fermentés ?
Alors, toutes les catégories d'aliments peuvent être fermentées. Déjà, les viandes, les poissons, les céréales, les végétaux, les légumes, les produits laitiers. Il y a énormément d'aliments qui peuvent être fermentés.
Et j'imagine que c'est plus ou moins simple?
Oui, c'est plus ou moins simple. Par exemple, c'est très difficile de faire un grand cru de vin. C'est beaucoup plus difficile que de faire des yaourts. Vous voyez,
même du fromage, entre les yaourts et du fromage.
Voilà, c'est ça. Enfin, le fromage, faire un très bon fromage, c'est pareil, c'est quand même plus compliqué. Oui. Il faut une bonne cave.
Ce que je disais, entre un yaourt et un fromage, c'est très difficile de fermenter un fromage. Je voudrais revenir aux intérêts de la fermentation. Il y a un intérêt en termes de santé, de conservation, de goût.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres intérêts ?
Alors, il y a aussi un intérêt écologique, si je puis dire.
Ouais.
Parce que, déjà, à la base, c'est des aliments anti-gaspillage. Un maraîcher qui a une récolte trop abondante, parce que souvent tout donne en même temps, on n'arrive pas à tout écouler, le surplus, on peut faire fermenter les légumes, puis après on les vend sur l'année, même plusieurs années, ça se conserve vraiment très longtemps. Ensuite, on n'a pas besoin de frigo ni de congélateur, donc on n'a pas besoin d'électricité pour faire fonctionner le frigo et le congélateur, ça se garde à température ambiante. Et ça se garde. Enfin, le mieux, c'est d'avoir une bonne cave. Non, on n'a absolument pas besoin d'énergie. Et on n'a pas besoin non plus d'énergie pour faire fonctionner un stérilisateur, puisque ça se conserve à température ambiante, comme ça, sans spécialement chauffer ou stériliser. Donc, ça coche pas mal de cases intéressantes dans nos préoccupations actuelles.
Formidable. En termes de goût, qu'est-ce que ça va changer ?
Alors, en termes de goût, ça va, ça change le goût, ça va augmenter la palette aromatique. Parce que, par exemple, si je prends un exemple, la vanille artificielle, la vanilline, c'est une substance aromatique. La vanille naturelle qui est fermentée, c'est pour ça que je parle de ça,
toujours
parce que c'est toujours fermenté. La vanille naturelle, elle contient plusieurs centaines de composés aromatiques différents.
Oui.
Donc, c'est pour ça que la saveur de la vanille naturelle, elle est beaucoup plus ample, c'est riche, c'est vraiment intéressant. On reconnaît très bien le goût, enfin, la différence entre le goût de la vanille artificielle et de la vanille naturelle.
Oui, c'est le même exemple que vous avez donné tout à l'heure avec le vin
avec
et le jus de raisin.
Voilà, c'est ça.
Ok, en termes de santé, quel est l'intérêt ?
Alors,
quels sont les intérêts ?
Alors, les intérêts, c'est que ça va augmenter, ça va améliorer les propriétés nutritionnelles des aliments. Ce sont des aliments hyper concentrés, en fait, parce qu'il y a plus de vitamines que dans le même produit à l'état frais. Il y a, comme je l'expliquais, c'était aussi au point de vue des acides aminés, enfin, l'acide lactique, par exemple. C'est aussi, ça agit aussi comme un désinfectant, si je puis dire. Alors, déjà, l'aliment lui-même, il est sain bactériologiquement, puisque les bactéries, les bonnes bactéries, elles ont déjà zigouillé les mauvaises au départ. Donc, il ne reste plus que les bactéries intéressantes. Et en plus, quand cet acide lactique va arriver dans notre corps, à l'intérieur de notre système digestif, il va aussi nous désinfecter les intestins, le système digestif. Donc, c'est très bon pour les personnes qui ont des problèmes digestifs ou des problèmes intestinaux.
Est-ce que ça veut dire qu'on devrait tous en manger de façon assez régulière, en fait ?
On devrait tous en manger de façon assez régulière. Et d'ailleurs, dans les pays où c'est encore très populaire, on en mange des petites quantités, mais tous les jours. Et pratiquement à tous les repas.
Du type le kimchi.
Du type le kimchi ou au Japon, les tsukemono, c'est des petits légumes fermentés qu'on met sur la table, vous voyez, puis tout le monde pioche dedans au cours du repas. En Europe de l'Est aussi, c'est encore très populaire. On fait des bocaux enfin, nous, on appellerait ça des pickles, vous voyez, des petits légumes comme ça. Et sur la table, à tous les repas, il y en a et on peut en manger. Et les gens adorent ça et on en mange, en fait, toute la journée, à tous les repas.
Et à l'inverse, il y a certains produits fermentés qui, aujourd'hui, sont plus décriés. Je pense au pain qui reste fermenté, mais pourtant, l'aspect nutritionnel est contesté.
Le pain, il est décrié parce que, malheureusement, les boulangers n'ont pas fait tellement attention. C'est depuis les années 50, il y a eu une détérioration de la qualité du pain, de la qualité de la farine, parce que les farines, on cherche le rendement, on cherche
la facilité,
on cherche aussi ce qu'on appelle la force boulangère de la farine. Donc, c'est des farines qui sont très très fortes en gluten pour que le pain soit plus volumineux, qu'on puisse le vendre plus cher, etc. Mais il existe quand même des boulangers qui font attention à ça, qui choisissent des farines paysannes, des bonnes farines qui n'ont pas été boostées comme ça par des, en fait c'est des croises, font des croisements génétiques pour booster la farine, enfin c'est voilà. Mais il faut, et si on choisit bien son boulanger, on peut, le pain c'est quand même un excellent aliment, ça a été la base de l'alimentation en Europe pendant des siècles.
Oui, c'est bien de le rappeler pour ceux que ça intéresse. On a interviewé deux boulangers, le fondateur de Pane Vivo qui utilise des farines anciennes et du levain, et aussi le fondateur de la Fermentation Générale qui ne fait pas que du pain, mais qui fait aussi du pain. Valentin Orjas, qui est passionnant aussi. Est-ce que du coup, c'est un intérêt pour le microbiote dont on parle de plus en plus ?
Tout à fait, c'est un intérêt. Alors déjà, le microbiote, c'est le pilier de notre santé, en fait. Maintenant, il y a des recherches actuelle sur la médecine là-dessus, c'est phénoménal, c'est un pan de recherche complètement nouveau en fait, mais vraiment très important. Et il est prouvé, il y a des études scientifiques, que manger des aliments fermentés, ça améliore notre microbiote. En fait, les bactéries des aliments fermentés, donc elles vont arriver dans nos intestins. Alors, elles peuvent être mortes ou vivantes quand elles arrivent. Alors, si elles sont vivantes, effectivement, bon, bah, c'est encore mieux. Elles arrivent dans nos intestins et elles vont échanger. Elles vont pas s'implanter. Hein. On croit qu'elles s'implantent, mais non. Parce que notre microbiote autochtone, c'est un milieu très stable, en fait, et les bactéries, bah, sont pas contentes si elles ont des copines qui viennent trop les embêter. Mais ça va échanger à la fois des substances chimiques et de l'ADN avec nos propres bactéries. Et donc, ça modifie effectivement le microbiote. Et même si les bactéries qu'on mange arrivent mortes, ça échange quand même des substances chimiques et de l'ADN. Et elles vont servir de nourriture à notre propre microbiote, en fait. Et ça va aussi l'améliorer de cette façon-là.
Est-ce qu'on a intérêt, du coup, à manger les aliments fermentés dès le plus jeune âge? Je pense notamment aux enfants, voire aux bébés.
Ah oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Parce que, justement, c'est à cet âge-là qu'on se fait son système immunitaire. Et alors, il y a eu une étude de l'Académie de médecine au sujet des fromages au lait cru.
Ouais.
Qui a montré que, justement, contrairement à tout ce qu'on entend, il faut donner des fromages au lait cru aux enfants dès le plus jeune âge. Et que c'est un peu un scandale qu'on a. Enfin, je crois que dans les cantines, c'est interdit.
Mais c'est déconseillé. Ouais. C'est déconseillé par l'ANSES, hein, il me semble. Hein,
oui.
Mais jusqu'à 5 ou 6 ans. Et là, ils voulaient le mettre à 10 ans. Pour un...
oui.
Donc, on a fait un épisode sur le microbiote que je vous invite fortement à écouter avec Marc-André Sellos qui était scandalisé par ça.
Oui,
hein.
Oui. Ça, c'est vraiment terrible parce que, en fait, ça peut même être un médicament. Enfin, ça peut soigner des désordres. Et donc, on gâche les chances de millions d'enfants à cause de ça. Et il y a une étude aussi qui a montré que les enfants dont la mère enceinte a mangé des fromages au lait cru sont moins malades que les autres enfants.
Alors qu'on interdit
le lait cru aux femmes enceintes. Mmh.
Je vous pose aussi cette question parce que moi, j'avais l'impression que, en tout cas, pour un bébé, c'était pas... Je parle d'un petit bébé, hein, que c'était pas évident de donner des aliments fermentés, voire même à travers le lait pour une femme qui allaite, ça pouvait être cause de désagréments intestinaux. Ça, c'est des légendes.
Ah oui, c'est des
Par
légendes.
Par exemple, manger une choucroute quand on allait,
aucun problème.
Ok, ouais. Intéressant. Comment la façon de consommer ces aliments a évolué au fil du temps? Est-ce qu'aujourd'hui, on mange des aliments fermentés comme on en a toujours mangé?
Je pense que oui, ça évolue parce que... En France, en Europe, autrefois, on consommait plutôt des aliments d'origine animale, des aliments fermentés d'origine animale. C'était la charcuterie, le saucisson, les viandes en salaison. On consommait plus aussi les fromages, les produits laitiers. Les légumes fermentés en France, c'était pratiqué quand même, mais c'était pas les choses qu'on mettait en avant comme ça. On connaît la choucroute en Alsace, mais ailleurs, on faisait aussi des légumes fermentés, par exemple des haricots verts qu'on conservait pour l'hiver dans des grandes jarres avec du sel. C'était des haricots verts fermentés, en fait. Mais aujourd'hui, donc, on végétalise de plus en plus son alimentation. Et justement, les aliments, les légumes fermentés, je pense que ça revient vraiment sur le devant de la scène.
Et alors là, vous avez utilisé un mot, charcuterie.
Oui.
Si vous nous avez parlé du saucisson, mais aujourd'hui la charcuterie est plutôt décriée en termes de santé.
Oui.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir de la charcuterie bonne pour la
santé? Mais bien sûr, il faut choisir. C'est pareil, il faut choisir ses fournisseurs. Déjà, il y a de la charcuterie qu'on peut trouver sans produits chimiques, là, sans comment ça s'appelle, le sel, sans nitrite, sans polyphosphate et tout ce qu'on veut. Il faut choisir des produits artisanaux, mais un bon saucisson de montagne. Fabriqué que ce soit en Auvergne ou dans les Alpes ou je ne sais où, mais c'est quand même excellent pour la santé. Ça apporte des protéines, ça apporte aussi des bactéries lactiques. Alors évidemment, il y a du gras, il y a tout ça, mais
il y a du sel quand même.
Il y a du sel, mais on n'est pas obligé de se jeter dessus et d'en manger 3 kilos d'un coup.
Oui, tout est une question de quantité.
C'est une question de quantité, c'est une question d'équilibre sur la journée, voilà.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu as écrit un livre sur le miel, une autre histoire de l'humanité. Donc, est-ce qu'il y a, tu nous en as un peu parlé, mais entre le miel et la fermentation, le miel est un aliment fermenté?
Oui. Le miel est un aliment fermenté. C'est aussi quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, au début, quand j'ai travaillé sur le miel, je savais pas. J'ai découvert en me renseignant, en cherchant des choses sur le miel. Et ce sont des savants suédois là dans les années 2010 qui ont trouvé ça, parce que le miel contient des bactéries lactiques. Alors ils ont cherché d'où viennent ces bactéries lactiques, et en fait, ça vient du microbiote de l'abeille. Parce que le miel, en fait, pour fabriquer du miel, les abeilles, elles ingurgitent le nectar des fleurs, et ensuite elles le régurgitent, et elles se le passent d'une abeille à l'autre, hein, comme ça, plusieurs fois. Et donc, le nectar est modifié par le microbiote de l'abeille, qui contient des bactéries lactiques qui produisent des enzymes et qui transforme le nectar en miel. Donc le miel, c'est aussi un aliment fermenté. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il se conserve très longtemps. Mmh. En fait, le miel, ça se périme pas. Je sais pas si on met des dates de péremption sur les pots de miel, mais...
Je suis sûre qu'il y en a, mais...
Mais vous pouvez le garder bien au-delà, parce que ça ne se périme jamais, le miel.
Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai l'impression qu'en revanche, pour les légumes lacto-fermentés, ça finit par périmer.
On peut les garder quand même très longtemps.
Même ouvert ?
Alors, ouvert, non, moins longtemps. Mais quand vous avez un bocal qui est fermé, vous pouvez les garder 10 ans, il n'y a aucun problème.
Sans le stériliser ?
Sans le stériliser. Alors, quand c'est ouvert, en fait, ça dépend, la durée de conservation dépend du nombre de fois vous allez l'ouvrir et le refermer. Si il a été entamé, vous le refermez. Ensuite, vous le laissez reposer, enfin vous le laissez dans votre frigo un certain temps sans l'ouvrir, il va se conserver très bien. Mais ce qui se passe quand on ouvre et on referme, il y a des spores dans l'air qui vont pouvoir aller contaminer votre produit. Donc ça peut en fait, mais le problème, il est uniquement gustatif, hein, il n'est pas sanitaire.
Ah oui.
Oui. Vous pouvez pas vous empoisonner, mais ça peut former un petit film blanc sur la surface.
C'est des champignons, ça.
C'est des champignons. C'est pas du tout toxique.
On peut les enlever d'ailleurs.
On peut les enlever, voilà. Faut pas les laisser s'installer trop longtemps, parce que ça finit par donner un goût aux légumes. Et les légumes vont aussi ramollir. Et c'est moins agréable à manger c'est mieux quand c'est croquant que quand c'est tout mou.
Tout à l'heure, on a parlé du fait qu'en fait, on n'a pas le même goût pour la fermentation. On parlait des Chinois avec le camembert ou des Américains avec le roquefort. D'où nous vient, du coup, notre goût pour un certain pourri? Et pas pour un autre.
Bah, je pense que c'est culturel, c'est parce qu'on a connu ça depuis qu'on est enfant, et donc pour nous c'est familier, et on n'a pas des choses dont on n'a pas l'habitude. Il faut une initiation, il faut qu'on nous explique, ça demande quelque chose de, une initiation, je pense que c'est ça le mot.
Sur la partie santé, on l'a dit, c'est intéressant pour la santé. Est-ce qu'on peut tirer le trait disant que boire de l'alcool non pasteurisé, je parle en tout cas pour la bière, c'est bon pour la santé?
Il y a des vertus, évidemment l'alcool en trop grande quantité c'est nocif, mais moi personnellement j'en bois, je bois du vin ou je bois de la bière. On n'est pas obligé, c'est pareil, d'en boire des litres, un petit peu au repas, c'est quand même bien agréable. En petite quantité, oui, moi je pense que c'est.
Et alors là, il va y avoir une différence suivant que l'alcool, je pense à la bière surtout, est pasteurisée ou non, j'imagine.
Oui, bien sûr, parce que justement, quand la bière n'est pas pasteurisée, elle contient des vitamines, elle contient aussi les levures. Il y en a certaines qui sont vivantes encore quand vous ingurgitez la bière, et c'est aussi intéressant. Ouais.
Le vin n'est jamais pasteurisé.
Le vin, alors. Il faut faire une différence entre les vins conventionnels et les vins qu'on dit naturels ou nature, parce que dans certains vins conventionnels, le mou est stérilisé et on rajoute des levures qu'on va acheter au magasin. Parce qu'il y a des levures...
Pour donner des goûts.
Pour donner des goûts, voilà. C'est ce qu'on appelle les levures aromatiques. Alors, par exemple, vous voulez donner le goût de fraise, le goût de banane, le goût de fruits rouges, ou comme ça. Ben, il y a des levures spécialisées qui donnent ces saveurs-là.
C'est souvent ce qu'on reproche, il me semble, aux appellations. Parce que du coup, on cherche un goût et on a des vins très homogènes.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
D'accord.
C'est ça. Alors que moi, je trouve que ce qui est intéressant, justement, dans la fermentation, c'est la surprise. Alors évidemment, ça peut être bon, ça peut être moins bon, mais moi je trouve que c'est quand tout a le même goût tout le temps. Par exemple, le camembert industriel, vous l'achetez du mois de janvier au mois de décembre, il a tout le temps le même goût. Tandis qu'un fromage artisanal, ça sera différent à chaque fois. C'est différent d'un producteur à l'autre, d'une saison à l'autre, selon ce que mangent les vaches, etc. Ouais.
C'est flagrant, je trouve, pour certains fromages de vaches comme le reblochon. On va y avoir une différence flagrante entre l'été et l'hiver, notamment.
Bien sûr.
Est-ce que ça veut dire que toutes les levures ne se valent pas, puisque certaines, en fait, n'ont pas vraiment d'intérêt? Et je pense notamment, parfois on voit écrit sur les bouteilles de vin ou de bière que c'est fait avec des levures indigènes.
Oui, alors les levures indigènes, ça veut dire qu'on utilise les levures qui sont sur le raisin, sur le raisin lui-même. Alors, on peut cultiver les levures indigènes, c'est-à-dire que les vignerons font ce qu'on appelle un pied de cuve, c'est-à-dire qu'on fait fermenter naturellement, comme ça, sans intervenir, une petite quantité de jus du raisin. Et donc, les levures, elles vont se multiplier dans cette petite quantité. Et ensuite, on va l'ajouter ça à la grande cuve qu'on veut faire fermenter. Ce qui fait qu'on a quand même cultivé des levures, mais ce sont les levures du raisin lui-même.
Et est-ce qu'il y a intérêt pour la santé ou pour le goût particulier?
Je pense que c'est plutôt pour le goût, parce qu'en fait, ces levures, elles sont adaptées à ce raisin-là. Elles sont du terroir, parce que les levures, elles sont sur la plante. Donc, elles sont adaptées au climat de l'endroit où ça a poussé, elles sont adaptées aux conditions géographiques, à la composition du sol, etc. Donc, c'est en fait les levures idéales pour fermenter ce raisin-là.
Est-ce que ça veut dire que si les vignes sont traitées, on va se retrouver parfois avec du raisin sans levure ou avec des levures faibles?
Je pense que ça doit arriver, oui, parce que les traitements, c'est aussi des antifongiques, c'est aussi des antibactériens, forcément. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des produits non traités ou bio, enfin, s'il n'y a pas le label bio. Vous connaissez le maraîcher qui habite pas loin de chez vous, vous savez comment il travaille, vous pouvez aussi lui faire confiance. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de prendre des produits non traités.
Et là, on en arrive justement au symptôme, enfin en tout cas, ou peut-être à la maladie, ce qui se passe aujourd'hui, qui est qu'on est dans une société clairement aseptisée.
Tout à fait.
On veut enlever les bactéries, les levures partout. On en a parlé avec Marc-André Sellos, mais le fait de mettre du gel hydroalcoolique sur les mains, par exemple, ce genre de choses. Comment vous l'interprétez, ça, ce besoin? On en a parlé avec aussi les fromages pasteurisés, de pasteuriser les choses, d'enlever les bactéries.
Alors moi, ça me fait très peur. Je trouve ça très dangereux. Même intellectuellement, c'est dangereux de vouloir purifier, entre guillemets, tout. L'idée de pureté, c'est une idée très dangereuse, aussi bien socialement que pour les microbes et pour tout ça. Parce que déjà, il faut comprendre que les micro-organismes, on en a besoin pour vivre. D'ailleurs, Marc-André Sellos a dû vous expliquer que la vie sur Terre, elle provient des micro-organismes. Sans les micro-organismes, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Et nous ne serions pas en vie. Si on éradiquait notre microbiote, par exemple, on serait très, très gravement malade. Donc, moi, je trouve ça... l'idée de tout aseptiser comme ça... Je pense que l'industrie agroalimentaire a son rôle à jouer dans cette espèce de pasteurisation du monde, parce que eux, ils ont un intérêt à ça. Ils ont un intérêt on élimine les fromages ou les crus, qu'on élimine toutes les bactéries de l'alimentation.
Mais si c'est une raison de santé publique, pourquoi on le fait? Si ça pourrait éviter certaines maladies, je pense aux maladies auto-immunes intestinales, je pense à certains cancers, comment on arrive aujourd'hui à dire qu'il faudrait quand même peut-être que les enfants ne mangent pas de fromage au lait cru avant 10 ans?
Chercher à qui ça profite. Hein, ça profite à ceux qui vous vendent des fromages pasteurisés. Voilà. Mmh. Je pense que c'est ça. Hein. Parce que les industriels font les lois. Il y a des lobbies énormes. Il y a des milliards d'euros en jeu. Et pour eux, voilà, c'est, je pense que c'est ça. Parce que pour eux, si on généralisait le lait cru, s'il était obligatoire de mettre du lait cru, imaginons, hein, eh bien, les industriels, ça les embête beaucoup parce que ça leur coûte cher. Il faut faire des, je perds mes mots, excusez-moi. Il faut faire des contrôles surtout pour montrer qu'on a les bons microbes. Enfin, voilà. Donc, ça coûte beaucoup plus cher à produire.
Ouais,
donc ça les arrange pas les industriels.
Oui, parce que le lait cru en industriel quand même devient dangereux pour eux.
Voilà, c'est ça, devient dangereux pour eux. Ils seraient obligés vraiment de faire beaucoup plus de contrôle que ce qu'ils font actuellement, parce que c'est facile, comme le lait il est stérilisé. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes déjà avec le lait stérilisé. Oui. On se rappelle de l'histoire avec Lactalis qui ont quand même empoisonné des bébés.
C'est ce que j'allais dire, c'est que les derniers scandales sanitaires sur le lait, c'était pas du lait cru.
Non, c'est pas du lait cru justement, parce que le lait cru en fait, il se défend tout seul. Il a sa flore qui est sa flore autochtone qui va se défendre contre les pathogènes. Parce qu'en fait, les micro-organismes, ils vivent en communauté. Donc, il y a une communauté dans le lait, par exemple, et ils vont défendre leur territoire. Et donc, si un pathogène arrive, eh bien, ils vont l'éradiquer. Il y a eu aussi une étude sur la croûte du Saint-Nectaire qui a montré que sur la croûte du Saint-Nectaire, il y a un ensemble de bactéries qui vont éradiquer les salmonelles. Si jamais il y a une salmonelle qui veut arriver sur le Saint-Nectaire, eh ben, elles vont se défendre et la salmonelle ne pourra pas s'implanter.
Incroyable. Donc, manger la croûte du Saint-Nectaire.
Voilà, il faut manger la peau du Saint-Nectaire, oui.
Qui est en plus très bonne.
c'est très efficace. Et je pense aussi qu'on est au début de quelque chose, quand même. On est au début de quelque chose.
C'est-à-dire que les mentalités ont tendance à changer.
Ça, voilà. Alors, comme on est au début, bah, c'est lent, ça nous paraît lent.
Ouais.
Mais on assiste à une révolution médicale. Parce que j'ai discuté avec des médecins qui m'expliquent ça. Il y a quelques années, justement, on cherchait à tout éradiquer, tout stériliser. Et maintenant, on revient là-dessus quand même. Et on fait il y a énormément d'études sur le microbiote, tout ça. Ça va dans ce sens-là.
Ouais. Sur les produits d'entretien, il y a quand même un énorme travail à faire là-dessus.
Ah oui, alors le produit d'entretien, ça, c'est pareil. Les produits qui vous promettent d'éradiquer 99,9% des bactéries. Mais en fait, faut se rendre compte que les 0,01% qui restent, c'est celles qui résistent, donc c'est les plus dangereuses. Donc on éradique les bonnes et on préserve les plus dangereuses. Alors ça, c'est vraiment très ennuyeux.
Ouais. On en arrive à la conclusion de ce podcast. Évidemment, là, la question qui manque, c'est celle de la recette. Comment on fait pour faire de la fermentation si on veut faire de la fermentation chez soi?
Alors, ça dépend de quel produit on veut fermenter, évidemment. Si on veut faire du pain, si on veut faire du fromage, si on veut faire des légumes.
Peut-être, donne-nous ta recette de fermentation que tu préfères.
Alors, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup que je préfère. On va donner quelque chose de facile quand même à expliquer. Bon, si vous voulez faire un bocal, par exemple, de betteraves fermentées ou de carottes fermentées, vous prenez vos carottes ou vos betteraves, vous les râpez sur une râpe. Vous allez les mélanger dans un bol ou dans un saladier avec 1% de leur poids en sel. Alors, gros sel gris de mer.
Oui, il ne faut pas qu'il soit traité, le sel.
Voilà, sel sans additifs. Vous allez bien masser vos légumes avec le sel pour que le sel puisse commencer à faire sortir le jus des légumes. Voyons, on leur fait un petit massage comme ça. Et au bout d'un moment, on aura les mains mouillées au bout de quelques minutes. Alors, quand on a les mains mouillées, on arrête, on laisse reposer. On revient 30 minutes plus tard et le sel va continuer à jouer ce rôle de faire sortir l'eau des légumes. Et quand on prend une poignée de betteraves ou de carottes, on les presse et du jus va couler. À partir du moment où du jus coule, c'est que c'est prêt. On va mettre ça dans un bocal Le Parfait, avec Le Parfait ou autre marque, mais avec le caoutchouc. et on va bien tasser ces légumes dans le bocal. C'est-à-dire que pour un bocal de 1 litre, il vous faudra 1 kilo de légumes. Si vous en mettez moins, c'est que ce n'est pas assez tassé.
D'accord.
Bon, bien tasser, bien remplir, on ferme, on met le caoutchouc évidemment, on ferme et on va laisser à température ambiante, plutôt tiède, c'est-à-dire que pas moins de 20 degrés au démarrage.
Okay.
S'il fait trop froid dans votre cuisine, il vaut mieux attendre qu'il fasse un peu plus chaud ou alors vous mettez près du radiateur. Voilà.
Ouais. Mais à l'inverse, quand il fait trop chaud pendant l'été.
Ah, ça, c'est pas grave.
Okay.
ça aime la chaleur.
D'accord.
Et vous attendez 2 semaines avant de le manger, mais vous pouvez attendre plus, hein,
ah, okay.
plus longtemps. Mais le minimum, c'est 2 semaines. Et après 2 semaines, bah, faites-vous une petite salade avec ça. Pas besoin d'ajouter du vinaigre. Ça sera déjà acidifié par l'acide lactique. C'est déjà salé. Et 1%, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas trop salé. Ça va être juste salé comme il faut. Je sais pas, vous mettez un filet d'une bonne huile d'olive. Vous pouvez faire une petite mayo sans vinaigre ou sans jus de citron parce que c'est déjà acide, sans sel aussi. Et voilà, vous assaisonnez ça comme vous voulez.
J'aurais
et vous allez
ça,
voir, c'est très bon.
Ce soir. on peut faire ça avec tous les légumes ?
On peut faire ça avec tous les légumes. Alors, il y a certains légumes qui sont meilleurs que d'autres quand
D'accord.
même. Voilà. Par exemple, les légumes d'été, comme les courgettes, les choses comme ça, ça fonctionne, ça fermente, mais il vaut mieux les manger assez vite parce que ça devient mou au bout d'un moment. C'est moins agréable à manger.
Et les légumes qu'on mange cuits, on ne les fait pas fermenter. Je pense à la pomme de terre, à l'aubergine.
Alors, l'aubergine, ça fermente très bien.
Ah.
Et ça... Pourquoi on ne mange pas les aubergines crues? Parce que ça contient de la solanine qui est un toxique. Et la fermentation élimine la solanine. Donc, si elle est fermentée, vous pouvez la manger crue après.
Et ça marche bien.
Et ça marche bien, oui, oui. Alors, la pomme de terre, on ne la fait pas parce que c'est plutôt farineux, la pomme de terre. Et ça va faire une réaction qui va rendre le jus gluant. Alors, c'est moins agréable, voilà. Mais ceci dit, les Canadiens font fermenter les pommes de terre pour faire des frites. Mais juste 3-4 jours.
Ok.
En fait, ils mettent la pomme de terre coupée dans une saumure avec du sel, de l'eau. Ils attendent 3-4 jours. Ça a commencé un petit peu à s'acidifier et ça donne un petit goût aux frites. C'est pas désagréable. Vous pouvez essayer si vous voulez. Mais plus longtemps, ça risque de donner un jus gluant un peu. C'est pas très.
Vous m'avez parlé de saumure, donc il y a une question qui m'est venue tout de suite. Les olives, c'est fermenté ?
Les olives, c'est fermenté. Oui, oui.
Okay.
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut faire fermenter des fruits ?
Alors oui, on peut faire fermenter des fruits. Alors, les fruits, principalement, ça fermente en alcool. Hein, parce que les pommes, ça fait du cidre, par exemple.
Oui.
Mais on peut quand même faire fermenter en lactofermentation des fruits, à condition de mettre un petit peu plus de sel que normalement. Et donc, il faut oublier que les fruits sont sucrés, parce qu'ils vont devenir... Le sucre va être consommé, ils vont devenir... à la fois acide et salé. Mais si vous voulez faire des salades, par exemple, ou l'utiliser dans des plats aigres doux...
On le fait avec la prune, non ?
Avec la prune, oui, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne avec la prune, la pomme, des fruits comme ça, les pêches, les abricots aussi, ça peut être amusant pour faire des salades.
Génial. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Une question plus politique. C'était pas un sujet politique, mais ça m'intéresse toujours d'avoir l'avis politique de mes invités. Si tu avais une mesure à souffler au gouvernement pour une alimentation plus saine et durable, ce serait quoi ?
Une seule.
Tu peux en dire plusieurs, ça ne te dérange pas.
Alors, déjà, de généraliser le lait cru, déjà, dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est
toi, tu conseillerais même de donner du lait cru, du lait, quoi. Pas cru, pas seulement du fromage au lait cru, mais le lait.
Oui, du lait, oui, oui.
Okay.
Moi, j'ai mon père qui vient de fêter ses 100 ans la semaine dernière. Et il ne boit que du lait cru. Alors qu'on, c'est pareil, les personnes âgées, on recommande de pas du tout leur donner de lait cru. Enfin,
ouais.
C'est considéré comme fragile et tout. Mais lui, il a bu tout ça toute sa vie. Et il n'y a pas question de lui donner du lait industriel.
Mais donc, la pasteurisation, quand même, elle a permis de sauver des vies, non ? Ou pas ? Même pas ?
ça, c'est pas prouvé. C'est non. Je n'y crois pas. En fait, la pasteurisation, elle a permis de rendre comestible du lait de mauvaise qualité.
Ah.
Principalement.
Ok. Ok.
Il y a ça aussi. Et puis, bah, je pense qu'il faudrait, ça serait, moi, ce qui me plairait, ça serait des lois pour limiter les pouvoirs de l'agro-industrie et puis de limiter les pesticides partout et voilà. Enfin,
on est bien d'accord.
Ça serait ça, l'idéal.
C'est quoi tes futurs projets?
Alors, mes futurs projets, bah, c'est de développer l'école de fermentation. J'aimerais bien toucher beaucoup plus de professionnels. Pour l'instant, on marche bien avec des particuliers. J'aimerais bien, on commence à enseigner à des professionnels. Par exemple, bon, j'enseigne à l'école Ducasse, par exemple.
Super.
Mais voilà, j'aimerais bien développer ce côté-là, parce que je pense que dans le grand public, le grand public aime bien imiter les chefs, aime bien imiter les cuisiniers. Et donc, c'est les chefs, ils ont un pouvoir de persuasion, si je puis dire, auprès du grand public. Et je pense que ça peut venir de la haute gastronomie. Si la haute gastronomie, après, les gens vraiment imitent ça, ils ont envie de faire la même chose. Et donc, si les grands chefs cuisiniers prônent la fermentation en tant qu'aliment de saveur et aussi aliment de santé, je pense que c'est comme ça qu'on peut développer les choses.
Appel à tous les restaurateurs qui nous écoutent et à toutes les écoles hôtelières pour la fermentation. Est-ce que tu as un conseil de lecture, de film, de reportage, de quoi que ce soit qui, pour toutes les personnes qui s'y intéresse. Alors, il y a tes livres, quand même.
Oui, bah, il y a mes livres. Oui, mais il y en a d'autres aussi. Alors là, bon, c'est difficile de... Tout de suite, je n'ai pas trop de choses en tête. Là je viens de revoir un film qui m'a beaucoup plu, c'est Goliath. Alors, je conseille à tout le monde. C'est assez marquant. C'est pas très optimiste à la fin, mais c'est un très, très beau film quand même.
On mettra la référence et on mettra évidemment la référence de tes livres sur la fermentation. Alors, t'en as écrit quand même une douzaine de livres.
Oui,
si t'avais un livre à conseiller dans tes livres, ce serait lequel?
Alors, bah, ça dépend si vous voulez des recettes ou si vous voulez plutôt de l'histoire. Alors, plutôt, pour l'histoire, c'est Ni cru ni cuit. C'est qui vient d'être réédité, d'ailleurs, en format poche. Donc, comme ça, c'est bien parce qu'il est accessible au plus grand nombre. Et sinon, pour les recettes, bah, peut-être le, aliment fermenté, aliment santé. Parce que c'est le premier, mais il est bien pour démarrer, il est un petit peu général aussi. Voilà.
Génial. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt!
Écoutable. Écoutable.